Bonjour mes frères et sœurs, nous venons de chanter un cantique solennel. Ce qu'on va partager ce matin est extrêmement sérieux, très sérieux. Tout est sérieux dans le royaume de Dieu, tout est joyeux, sérieux. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, je voudrais que vous preniez ces versets que je vais vous donner, il y en a peut-être une dizaine dans la prédication, que vous compreniez, que vous les relisiez. Je pense que beaucoup de chrétiens souvent n'ont pas rejoint l'avenue Jules Julien que déjà le diable a réussi à enlever la semence. Vous trouvez peut-être que je suis trop dur, mais je sais que c'est vrai, que le diable il fait tout pour enlever la semence et que nous devrions avoir cette intelligence de dire « Seigneur, tu veux me parler au travers de tel texte ?» Eh bien, ce texte-là, je vais l'écrire, le mémoriser, je vais le noter et je vais me rappeler ce que tu as voulu me dire tout le long de la semaine. Par exemple, dans 2 Timothée, c'est un texte qui s'adresse au pasteur. Ça s'adresse au pasteur. L'apôtre Paul va bientôt mourir, il le sait, et il s'adresse à ce jeune pasteur et voilà ce qu'il lui dit. Ce sont des choses solennelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont liées à votre éternité, à votre salut éternel. Parce que nous le voulions ou non, où nous irons au ciel ? Où nous irons ? Où ? À l'enfer. C'est pas compliqué. De Timothée, chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure. C'est une prière avec instance. S'il y a des mots comme ça, je pense que ça vaudrait la peine que vous compreniez le dictionnaire et qu'on regarde à nouveau. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. C'est une occasion ce matin ? Un peu, oui. Prêche en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Favorable ou non, c'est pour le gars qui parle. Parce que si le gars n'est pas disposé, ce n'est pas une occasion. Mais des fois, est-ce que vous avez envie de témoigner ? Est-ce que vous avez toujours envie de témoigner ? Mais la personne qui est en face de vous, elle peut être vraiment dans le besoin. Et c'est ça que ça veut dire. J'ai peut-être pas envie de parler, mais cette personne en face de moi, elle est dans le besoin. Donc je vais lui parler. Ça, en toute occasion, ça peut dire, ah, j'ai l'occasion de parler. Ne saoulez pas les gens. C'est pas ça que ça veut dire. L'occasion, ça veut dire que quelqu'un, il est là dans le malheur. Il a besoin d'entendre une parole. Moi, je suis pas de bon poil, mais ça fait rien, je vais le faire. Le salut des âmes, c'est quelque chose d'important. Regardez un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui est dit par rapport au pasteur. Je ne sais pas si les pasteurs osent lire ce texte, mais il faut le lire, il est dans la Bible. Hébreux chapitre 13, verset 17. Ce sont des choses archi sérieuses. Il y a des chrétiens. C'est vrai qu'il y a la joie. Et j'ai apprécié que Jérôme nous parle de la joie du salut. Vous comprenez la différence ? Est-ce qu'on peut passer une mauvaise semaine et être dans la joie du salut ? Ben oui, mais c'est clair. On peut avoir une semaine très difficile et pouvoir dire « Oui, je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. » Ce n'est pas une joie éphémère où j'ai besoin de rigoler un bon coup. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que je suis conscient que je suis un chrétien sauvé par grâce et j'entretiens le salut. Et c'est pour ça que quand même il faut bien dire au meneur de chant, d'expliquer la différence entre la joie, qui ne veut rien dire, et puis cette satisfaction intérieure qui est la joie du salut. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ah. Dès qu'on parle de l'obéissance, il y a des gens, ils ont les poils qui s'hérissent. Eh bien, c'est pas bien. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Tiens, qu'est-ce que c'est la déférence ? C'est quoi la déférence ? Les anciens n'ont pas le droit de répondre. Ou les pasteurs. Qu'est-ce que c'est de la déférence ? Est-ce que vous avez de la déférence pour vos conducteurs ? Qu'est-ce que ça veut dire, la déférence ? Un grand respect. C'est être très respectueux. Alors pourquoi il faut être respectueux envers les pasteurs ? Eh bien regardez, car ils veillent sur vos âmes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit après ? Donc, ou sachant, oui, qu'ils devront rendre compte. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on se retrouve dans un endroit comme celui-ci, où on est sous le regard de Dieu pour partager, c'est évident, la joie du salut, on ne peut pas ne pas partager la joie du salut. C'est pas possible. Quelqu'un qui est sauvé Même s'il a pleuré toute la semaine, il a la joie du salut. Vous le savez, je ne vous invente rien. Mais mes frères et sœurs, bon, même moi le premier, je me suis fait piéger. Des fois, j'étais dans des églises, quand je prêche pas, que c'est rare le dimanche, je suis de passage dans une église, et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais entendre une bonne prédication. Vous l'avez déjà fait ça? Vous l'avez, allez. Est-ce que vous l'avez déjà dit? J'aimerais entendre une bonne prédication. Vous l'avez déjà dit? Ça veut rien dire? Ça veut dire quoi? Seigneur, j'aimerais entendre ta pensée. Ce que tu as à me dire. Parce que les pasteurs, normalement, il faut avoir de la déférence, bien sûr. Parce qu'il faut les soutenir. Quand on respecte quelqu'un, est-ce qu'on prie pour lui? Et si vous m'aimez, vous avez prié pour moi ce matin. On va distribuer un papier, vous allez me mettre votre nom et me mettre si vous avez prié pour moi. Ne riez pas, parce que c'est quelque chose que vous devriez faire. Respecter quelqu'un, obéir à ses conducteurs, c'est pas dire tiens, il faut obéir au pasteur, il m'a demandé de faire ça, ben je le fais parce qu'il m'a... C'est pas ça. Obéir à ses conducteurs, c'est dire, Seigneur, tu as placé un pasteur dans l'église, ou plusieurs. C'est pas toutes les églises qui en ont un. Alors Seigneur, tu as placé un pasteur dans l'église, je veux obéir à ce qu'il me dit de ta part. Parce que nous, on va rendre compte. Est-ce que c'est écrit que ceux qui prêchent, ils vont être jugés sévèrement? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Vous comprenez bien que moi, c'est une responsabilité de prêcher. Des fois, quand je vais dans une église, on dit « Ah, monsieur Gault, c'est une responsabilité ou une joie de prêcher ?» C'est quand même plus une responsabilité. Les gens s'imaginent que prêcher, c'est une joie. Non, bien sûr qu'il y a la joie d'obéir. Mais mes frères et sœurs, je dois veiller sur vos âmes. Et je sais pertinemment qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui viennent, je le sais parce qu'encore cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir d'une autre église et qui m'a expliqué comment, tout en louant, en se levant, en dansant, en chantant, il était dans le péché. Il dit, écoutez, j'ai besoin de savoir, mais comment vous pouvez aller dans le péché, mais vraiment le péché grossier. Je ne parle pas d'un péché que l'on commet, qu'on demande pardon, vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vit dans le péché. Et il m'a juste dit, mais on est aveuglé. On est aveuglé. Et nous avons un Dieu qui éclaire. Et quand il est dit, il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte, moi je sais très bien que je rendrai compte à Dieu pour cette prédication. Tout à l'heure on va prendre le vin, cet après-midi on va se réjouir, il y a des baptêmes, on va présenter le petit Benjamin, il s'appelle? Le petit Mougeot? Il s'appelle Benjamin? Oui, il s'appelle Benjamin. Mes frères et sœurs, cet après-midi c'est un moment de joie. Et je vous invite à participer à ce moment parce que Dieu compte sur vous, peut-être pour accueillir quelqu'un. Alors ce matin, j'aimerais, ça c'est l'introduction, pour que nous comprenions bien que nous devons prier pour tous les conducteurs. Pour tous les conducteurs. Et nous devons les respecter. Je ne dis pas ça pour moi, je ne suis pas en train de faire une crise d'autorité. Je suis en train de vous expliquer que s'il est dit dans la Bible qu'il faut respecter les serviteurs de Dieu, il faut les respecter. Parce qu'on veille sur vos âmes. Comme je l'ai dit en introduction, où vous irez au ciel? Parce que vous veillerez, vous aussi, sur votre âme. Vous travaillerez à votre salut. Vous allez me dire, mais monsieur Gault, le dimanche matin, tous les chrétiens qui sont rassemblés dans une église sont sauvés. Vous croyez que tous les chrétiens qui se rassemblent dans l'église sont sauvés? Mais ils connaissent les cantiques par cœur. Vous croyez que parce qu'on connaît les cantiques par cœur, on est dans un état d'obéissance? Alors on pourrait multiplier les textes. On a besoin d'entendre la vérité. Vous savez, il y a des gens, on l'a vu ça, ça nous a fait sourire, c'est dommage. Il y a des parents, quand ils amènent leur petit chez le pédiatre, leur petit c'est tout. Et leur petit est parfait, évidemment. Donc si le pédiatre vient à leur dire, vous savez, votre petit Gaston, il n'y a pas de Gaston dans l'église, bon, votre petit Firmin, il a un petit retard, les parents... Mais ce pédiatre, il n'y entend rien. Je vais changer de pédiatre, il n'y entend rien ce pédiatre. Mais il est incompétent. Est-ce que ça peut arriver qu'un pédiatre constate qu'un enfant peut avoir un petit retard? Mais voyez, bon, c'est une petite image, mais beaucoup de gens font pareil avec les églises. Le pasteur va dire quelque chose de sévère, la personne s'en va. Après tout, c'est son enfer. Il n'y a pas quelqu'un un jour qui a dit « Et vous ne voulez pas vous retirer ?» Quand plusieurs se retirèrent par rapport à la, entre guillemets, dureté, parce que c'est pas vrai, c'est pas la dureté, la vérité, plusieurs se retirèrent et le maître se tourne vers les apôtres, les pasteurs. Et elle leur dit, et vous, vous ne voulez pas vous en aller? Pourquoi? Ben parce que le message, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Quand on est chrétien, on doit savoir si on est prêt à rencontrer Dieu. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le Saint-Livre. Là, ce n'est pas des blagues. Des fois, quelqu'un me dit, « Oh, monsieur Gros, vous n'avez pas fait ma carte de membre, ça fait un an que je suis là, vous n'avez pas fait ma carte de membre, c'est pas bien. » C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est grave que vous ayez votre carte ou pas? Moi, je n'ai même pas ma carte pastorale, ça fait des années que je ne l'ai pas faite. Je pense quand même que je suis toujours pasteur. Si vous n'avez pas votre carte de membre de l'Église, ne vous inquiétez pas. Mais votre nom est-il inscrit dans le ciel? Est-ce que vous êtes prêt? L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle se prépare. Dans l'Apocalypse, on va lire un texte. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il est parlé des noces de l'agneau. Ça rejoint ce que Jérôme nous a fait chanter tout à l'heure, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, etc. Il y a des noms qui sont écrits, il y a des noms, hélas, ça fait peur, qui sont effacés. C'est écrit que notre nom peut être effacé? Eh bien, ça veut dire, parmi les centaines et centaines de versets qui en parlent dans la Bible, qu'on peut perdre le salut. Apocalypse chapitre 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Ça va venir les noces, ne vous inquiétez pas. « Son épouse, qu'est-ce qu'elle a fait l'épouse? Elle a attendu, elle s'est préparée. » L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle se prépare. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs. Ça me fait peur quand je vois la quantité de chrétiens qui sont paresseux. Le deuxième don spirituel s'adresse à quelqu'un. En plus, je sais que c'est quelqu'un qui doit être appelé à servir Dieu et qui est devenu paresseux. Mais il est dans un danger pas possible. Il risque non seulement de passer à côté de l'appel, et il risque de passer à côté du salut. Je me dis, non, mais monsieur Gaulle, le salut, on ne peut pas le perdre. Vous l'avez dit d'ailleurs mardi. Vous avez dit que les chrétiens charnels de Corinthe, ceux qui travaillaient avec le foin, le feu et le chaume, ils perdraient la récompense, mais pas le salut. Vous étiez là mardi à l'étude biblique? Vous n'étiez pas là? Alors j'ai ajouté quelque chose. Les chrétiens charnels de Corinthe, ils n'ont peut-être pas perdu le salut au début, lorsqu'ils travaillaient d'une manière charnelle. Mais quand on est charnel, écoutez-moi, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète. Quand on est charnel, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on finit par perdre la foi. Et quand on perd la foi, il n'en faut pas beaucoup pour qu'on finisse par perdre le salut. Et si vous lisez bien, comme M. Olé nous l'a enseigné pendant des années, à tenir compte du contexte, parce que moi je peux vous dire que l'enseignement de M. Olé, au bout de 30 ans de ministère, alors que moi je forme des pasteurs, m'a beaucoup aidé à tenir compte du contexte. Et les chrétiens charnels, ils vont dire, ah ben on peut être sauvé, c'est pas grave si je travaille avec du foin, si je suis charnel, si je suis léger, c'est pas grave, je perdrai ma récompense, mais c'est pas grave, je m'en fiche, il s'agit que j'aille au ciel. Regardez tout le livre corinthien qu'on est en train d'étudier le mardi, et vous verrez que ces mêmes chrétiens se retrouvent perdus parce qu'ils se sont éloignés complètement de Dieu, et que ceux qui commettent certaines choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés parce qu'ils vont à l'église. Mes frères et sœurs, moi je vous assure, cette semaine j'ai prié et je sais que je dois veiller sur votre âme. Je ne suis pas payé pour faire des sermons. Je suis là, Dieu m'a placé là pour que je puisse veiller sur vos âmes. On va prendre la Sainte-Seine, mais mes frères et sœurs, entrez. Il vous faut entrer. Alors on va lire une prophétie. Alors dans l'Apocalypse, d'abord il y a un texte. Donc, on le lira après. On va d'abord lire une prophétie. Une prophétie, mais d'une gravité totale dans l'évangile de Luc. Mes frères et sœurs, vous savez, j'ai beaucoup de chagrin parce que je sais que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Ceux qui sont peut-être parmi nous, des gens qui vivent dans... Est-ce que quelqu'un qui ne pardonne pas est prêt? Est-ce que le maître a dit, celui qui ne pardonne pas, mon Père céleste ne le pardonnera pas? Et il y a des chrétiens qui s'autorisent à vivre dans la haine, mais c'est un truc de fou. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Alors lisez avec moi cette prophétie. Mais moi, mes frères et sœurs, je vous assure, cette semaine quand j'ai prié, il y a peut-être quelqu'un qui est là, mais qui ne se rend pas compte qu'il est du mauvais côté de la porte. Vous vous rendez compte si un fils de Noé s'était trompé du côté? Mais non, la porte, elle est là, je la vois. Mais il faut être du bon côté. Est-ce que vous êtes dedans, dans l'arche? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, mais oui, je sais que je suis sauvé. Je travaille à mon salut. Regardez cette prophétie. C'est Jésus qui la donne. C'est utile. Mes frères et sœurs, tout ce qui a été écrit, c'est utile. Je suis sévère ce matin. Je suis sévère. Je suis sévère ou non? C'est la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà une écoute que quand la prédication, c'est comme une épée. Ils ne sont pas capables d'ouvrir, d'obéir simplement. Vous avez vu, il y a des enfants, il faut leur dire, écoute, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? De suite, ils le font. Il y a des enfants, il faut leur dire 36 fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il y a des enfants, il ne faut pas leur dire 36 fois, il faut dire, fais-le! C'est vrai ou c'est pas vrai? Lucas, c'est vrai ou c'est pas vrai? Luc chapitre 13, verset 22. Il a bien changé quand même. Regardez bien cette prophétie. Mes frères et sœurs, ce sont des prophéties. Une prophétie, c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une parabole. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» C'est vrai que c'est une question qui se pose. Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Regardez bien chaque mot, chaque verbe. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est ça la prophétie. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. » C'est fort l'image. Parce que quand on mange avec quelqu'un, c'est vraiment l'image de la communion. En France, un repas, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment l'image de la communion, même en France. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous avons mangé, nous avons bu avec toi. Vous vous rendez compte? Avec le Seigneur Jésus. Tu as enseigné dans nos rues. Quel privilège. Et il vous répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors ce verset nous prouve que quand vous rencontrerez Abraham, Isaac, Jacob, vous les reconnaîtrez. Des fois on me dit, mais est-ce qu'on se reconnaîtra dans le ciel? Bien sûr, on sera parfait, on reconnaîtra tout le monde. Regardez l'invitation, verset 34. Ça fait peine vraiment, parce que ce n'est pas pour les chrétiens de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est aussi pour les chrétiens de Toulouse. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le problème, mes frères et sœurs, il est là. C'est que on ne veut pas. On veut aller à l'église, on veut se faire croire qu'on est chrétien, mais on n'obéit pas à Dieu. Et vous savez, il y a quelques semaines de ça, il y a 3 ou 4 semaines, il y a une femme de l'église qui m'a appelé. Elle m'a appelé par rapport à un texte de l'écriture que je médite depuis 3 mois. Parce qu'il y a des textes, je les médite 100 fois avant de les prêcher, bien sûr. Et je me posais la question, mais pourquoi dans l'Apocalypse, on va y aller? C'est une question qui me turlupine depuis des mois. Même Jean, cet homme de Dieu qui est là sur l'île de Patmos en train de recevoir une révélation que ce n'est pas possible, il pose la question, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Lisez avec moi, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 9. C'est une affaire qui se passe pendant la grande tribulation. L'Église n'est plus sur la terre. Les chrétiens ont été enlevés. Parce que les chrétiens ne connaîtront pas la colère. Mes frères et sœurs, si vous croyez que les chrétiens traverseront la colère, vous ne connaissez pas du tout la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. Juste avant, il avait pu compter les 144 000 témoins qui vont évangéliser la terre. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, les vieillards, les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent devant leur face, sur leur face, devant le trône, et ils adorèrent Dieu. en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Ça peut vous éviter d'aller en enfer ou de traverser cette affaire-là, de faire partie de ce nombre. Quand l'Église va être enlevée, le Seigneur ne prendra pas tous les chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi ? Qui c'est qui prendra le Seigneur ? Tous ceux qui sont prêts. Tous ceux qui sont prêts. Les 10 vierges, vous savez comment ça se passe. Il y en a 5 qui sont folles. Elles sont cataloguées de folles par Jésus, pas parce qu'elles sont débiles. Elles sont cataloguées de folles parce qu'elles sont inconscientes, elles sont insensées par rapport aux choses spirituelles. Elles ne sont pas plus folles que les autres. Mais spirituellement, Jésus ne dit pas les insensés, les négligents, elles n'ont pas pris de l'huile, c'est pas bien. Non, elles n'ont pas d'huile, elles n'ont aucune communion avec Dieu. C'est des chrétiennes, elles attendent le retour du maître et s'imaginent qu'elles sont prêtes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, je vais à l'église, etc., je suis prêt. Mes frères et sœurs, vous comprenez ce que ça veut dire ? Ils veillent sur vos âmes. Moi, ça me fait peur, je le sais, je vois des chrétiens, mais ça me fait mal au cœur. Cette semaine, j'ai encore dû dire à 2 chrétiens, mais vous n'êtes pas convertis. Alors je sais très bien que ça va être l'un ou l'autre, ou ils vont partir, ou ils vont se convertir. Mais est-ce que je dois le leur dire ? Ou est-ce que je dois tout faire pour avoir 2 personnes de plus dans l'église qui sont susceptibles de donner un peu d'argent et faire augmenter les offrandes de l'église? C'est ça l'église? Ou c'est dire aux gens, convertissez-vous? C'est sérieux mes frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui sont noyautés par le système et qui veulent garder les gens à la place de les amener au calvaire. Et je peux vous dire qu'ils vont le payer cher. Et je sais que beaucoup de pasteurs m'écoutent, mes frères. Ne regardez pas au nombre, ne regardez pas à la réaction des gens, prêchez la croix. D'ailleurs, regardez bien ce texte, on va le lire. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc. C'est dans l'évangile de Luc ? Oui, au chapitre 11. Regardez le reproche que Jésus fait à des pasteurs. Les pasteurs, je ne sais pas s'ils aiment les reproches. Monsieur Bordeneuve, vous aimez qu'on vous fasse des reproches ? Ouais. S'ils sont fondés par Dieu, oui, c'est bien. Luc chapitre 11. Il s'adresse aux pasteurs. Regardez le reproche sévère que Jésus va leur faire. Je vais vous poser une question. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait faire ce reproche dans nos pastorales ? Luc chapitre 11, verset 52. Si vous lisez le contexte, vous allez voir que c'est costaud. Malheur à vous ! C'est des pasteurs. C'était les pasteurs du temps de Jésus. Docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas... C'est grave, hein ? Vous n'êtes pas entré vous-même. Et regardez la conséquence. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alors voilà la suite, ils ont essayé de le piéger pour essayer de tranquilliser leur conscience, sûrement essayer de piéger Jésus. Quelle ânerie, quel aveuglement. Et Dieu leur dit, mais malheur à vous. Malheur, ça ne veut pas dire, vous savez, vous allez avoir une petite épreuve. Vous allez, à la place de vivre jusqu'à 70 ans, vous vivrez que jusqu'à 65 ans. Malheur, vous savez ce que ça veut dire dans la Bible ? Quand ça sort de la bouche du Seigneur, ça veut dire qu'ils vont aller à l'enfer. Les pasteurs. Non mais vous allez me dire, mais monsieur, vous riez ? Ça m'est arrivé de prêcher un peu comme ça au pastoral. Et ça ne s'est pas très bien passé. Mais mes frères et sœurs, la porte va se fermer. Vous le croyez que la porte va se fermer ? La porte de la grâce, elle va se fermer. Comme du temps de Noé. Où pendant une centaine d'années, Noé a construit son arche. Et tout le monde blaguait. Et tout le monde riait. Et tout le monde se pouffait de rire. Et pourtant, les gens priaient. C'est écrit. Lisez avec moi dans Genèse. Les gens priaient. Genèse chapitre 4, verset 26, la fin du verset 26. Regardez ce verset, il est là, pourquoi il est là ? Pourquoi Dieu l'a mis là, juste avant le déluge ? Pourquoi Dieu a mis ce verset dans le canon des Écritures ? Regardez Genèse chapitre 4, la fin du verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est chouette. Oui ou non? Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est super. À quoi ça a servi? À quoi ça leur a servi? À rien. On commençait à prier Dieu, mais c'est merveilleux lorsque les gens commencent à prier. Ils priaient pour rien. La preuve, c'est que quand le déluge est venu, le déluge les a tous emportés. Ce qui prouve qu'on peut prier pour rien. Et ce verset, il est là. Il y a déjà, justement, il prie, je vais à l'église, je suis d'accord avec la prédication, je prends le pain et le vin, donc moi je suis prêt. Non, on n'est pas prêt parce qu'on fait ces choses. On n'est pas prêt parce qu'on est pentecôtiste, comme je l'ai déjà entendu. C'est pas de notre faute si on est les meilleurs. Mon Dieu, quel orgueil. Quel orgueil. C'est pas les pentecôtistes qui sont sauvés, les catholiques ou les protestants. Ce sont ceux qui se prépare à rencontrer le Seigneur. Je reviens à l'Apocalypse. Cette sœur m'appelle, elle me dit, mais monsieur Hugo, qu'est-ce que c'est cette affaire de personnes qui ont mis des robes, qui sont revêtues de robes blanches? Alors moi de suite, tac, 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 robe blanche, je pensais à l'épouse, ils sont revêtus de fin lin, éclatant, pur, je suis cherché dans ma concordance, et j'ai vu que dans l'Ézéchiel, il y en a qui vont être revêtus d'un vêtement brodé. Bon, j'ai compris qu'au ciel, il y avait quand même des hiérarchies. Parmi les chrétiens, ça c'est clair. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a ceux qui seront revêtus de fin lin éclatant, il y a ceux qui seront revêtus juste de robes blanches, bon c'est déjà pas mal, ils sont sauvés. Mais écoutez bien, les vierges folles, quand elles vont réaliser qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont soit accepter le totalitarisme, le mouvement qui va venir politique et le mouvement religieux, et je peux vous dire que c'est en train de se mettre en place. Vous y faites peut-être pas attention, mais moi je vous dis que tout est en train de se mettre en place. Donc, ceux qui ne sont pas prêts, est-ce que Dieu va leur donner encore une chance pendant la grande tribulation? Ben oui! Les fameux 144 000, ce n'est pas des témoins de Jéhovah qui sont sauvés, ce sont des juifs qui sont choisis par Dieu et qui vont, par la bonté du Seigneur, évangéliser la terre pendant ces temps de grande tribulation. Heureusement que Dieu, pendant la grande tribulation, permettra quand même que la grâce soit, entre guillemets, prêchée. Mais pas la grâce, le salut, parce qu'on ne sera pas sauvé par grâce. La grâce, aujourd'hui, 20 septembre 2015, la grâce est liée, la porte est ouverte. Ça veut dire que si vous vous repentez, et si vous vous convertissez, et si vous naissez de nouveau, vous irez au ciel. Amen. Pendant la tribulation, la grâce n'existera pas. Ça sera au détriment de votre vie. Il y aura un système au bout de 3 ans et demi. Écoutez bien, au bout de 3 ans et demi, le dictateur, qui sera certainement un chef européen, c'est fort, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses là-dessus, c'est pas grave. Il y sera. Il va imposer que tous les hommes, pour acheter, pour vendre, mettent sur la main droite, la droite, ou sur le front, cette fameuse puce. Vous savez, RFID, là. Elle existe déjà. Et dans certains pays, on envisage déjà dans les lois votées, de l'obliger. Mes frères et sœurs, ceux qui accepteront la marque iront à l'enfer. C'est vrai? C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Une vierge folle qui n'aura pas été prête, qui aura quand même la possibilité d'être sauvée, ça ne sera plus la dispensation de la grâce comme aujourd'hui accepter Jésus-Christ, ça sera une autre, il n'y aura pas la dispensation de la grâce sera terminée, et le seul moyen d'être sauvé, ça sera ça. Alors on peut le lire quand même. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Moi, cette prédication, c'est sûr, elle est pour les chrétiens qui ne sont pas prêts. À la fin de cette prédication, vous devez dire, oui, je suis prêt, oui, je ne suis pas prêt. Si vous dites, ben, je ne sais pas trop, eh bien, c'est que vous n'êtes pas prêt. Il faut être prêt, il faut avoir de l'assurance. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Je veille sur vos âmes, dont je devrais rendre compte. Ce que vous pensez, en vérité, ça me préoccupe pas trop. Ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu pense de ma prédication. Ça me préoccupe. Alors, ne vous inquiétez pas. De ce que vous pensez, ce qui est important, c'est que vous réalisiez ces choses, mes frères et sœurs. Elles sont écrites. Je t'en conjure devant Dieu, prêche ces choses. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé justement de cette fameuse marque de la bête. Alors, où c'est écrit? Apocalypse 14, je crois. Apocalypse. Oui. Il y a plusieurs textes, mais celui-là, il y est bien. Apocalypse 14, verset 9. Et un ange, le troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Il y a d'autres textes, mais mes frères et sœurs, c'est clair. Après l'enlèvement de l'Église, normalement, au bout de 3 ans et demi, le système méchant va être 10 fois plus méchant et on va imposer cette affaire-là. Et ceux qui accepteront la marque de la bête, parce qu'il y en a qui auront peur, ils oseront. Parce que ceux qui n'accepteront pas, qu'est-ce qu'on leur fera? Qu'est-ce qu'on leur fera? Oh, ils seront décapités. Mes frères et sœurs, ces choses-là, elles sont écrites. Elles ne sont pas écrites pour nous faire peur. Le pasteur qui utiliserait ça pour faire une espèce de chantage affectif ou spirituel, c'est sûr que Dieu va le réprouver. Mais c'est écrit. Et quand même, Jésus a dit que celui qui lit fasse... Attention, quelqu'un a eu le culot de me dire « Oh, mais c'est écrit qu'une fois !» Mais moi, je trouve que ça suffit. Ça suffit une fois. Oui ou non? Ça suffit. Dieu n'était pas obligé d'ailleurs de nous le dire. Que Dieu soit béni de nous avoir dit une fois... Que celui qui lit fasse attention. Je reviens à mes robes blanches. Même si ce ne sont pas des vêtements éclatants, purs, de fin lin, brodés, tout ce que vous voudrez. Quand même, ils seront sauvés. Mais c'est la preuve, et c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est la preuve. Il n'est pas dit, ceux qui viennent de la grande tribulation, vous allez vite comprendre de suite. Ce ne sont pas ceux qui ont purifié leur âme dans le sang de Jésus. Quand la Bible parle de notre salut, il est parlé de purifier nos âmes. Vous êtes d'accord? Mais là, il n'est pas parlé des âmes, il est parlé des robes. Ce qui prouve que ce sont des gens qui ne se sont pas sanctifiés. Ils ont peut-être été, ils ont obtenu la sanctification de Jésus-Christ. Vous me suivez? Par lui, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous me suivez? Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Notre âme a été sanctifiée. Mais la sanctification, c'est une chose, la marche dans la sainteté, ça n'est une autre. C'est pour ça que ce sont des chrétiens qui avaient certainement accepté Jésus, qui avaient purifié leur âme, mais ils ont tellement marché d'une manière charnelle, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas pris au sérieux les prédications, ils n'ont pas honoré les prédicateurs. Si Dieu vous demande, si j'ai commencé avec ce verset, c'est parce qu'il faut que vous écoutiez. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que c'est archi important. Moi, j'ai pas envie que Dieu me dise un jour, mais dans ton église, il y avait 3 sauvés. Combien de membres? 400? Il y avait 3 personnes qui étaient sauvées, mais moi, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai pas envie que des gens en enfer disent, pourquoi il nous l'a pas dit? Parce qu'écoutez-moi, on ne sait pas comment ça se passera. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils meurent, des chrétiens charnels qui sont pas prêts, il y en a qui doivent dire, mais pourquoi il nous l'a pas dit? Pourquoi il nous l'a pas dit? Le salut, c'est sérieux. Est-ce que vous le croyez que le salut, c'est sérieux? Mais c'est archi sérieux, mes frères et sœurs. Il faut être vêtu d'une robe blanche. C'est écrit dans l'Ecclésiaste, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Mais je sais qu'on se salit. Est-ce qu'on se salit en marchant? Est-ce qu'on se salit? Est-ce qu'on se salit? C'est une chose de se salir les pieds. Vous savez quand Jésus a lavé les pieds, comme Jérémie l'avait fait quand il est parti. Vous savez, il y a 2 anciens. Hein? Lorsque laver les pieds, c'est une chose. Parce qu'on marche, et c'est évident, on marche dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas des pieds physiques, mais on marche spirituellement. Il y a des choses qui nous souillent. Tiens, on passe, on tombe sur une photo vulgaire, ça nous souille. Seigneur, pardonne-moi. On marche, mais on se salit que les pieds. Et mes frères et sœurs, moi je vous le dis, parce que je le sais, mais ça me fait peine. Je vous ai dit l'autre jour que dans une église, j'ai regardé où c'était au Québec. Dans une église au Québec, non mais c'est grave, une église évangélique. Non mais frères et sœurs, c'est archi grave. Dans une église évangélique, à la fin du culte, 2 hommes se lèvent pour exprimer leur joie de se marier ensemble. Et toute l'église a applaudi. alors que toute l'Église aurait dû sortir. Mes frères et sœurs, dans cette Église, si Jésus revient un dimanche matin pendant le culte, ils ne s'en rendront même pas compte. Parce qu'ils ont choisi la souillure. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps d'apostasie. Vous savez que l'apostasie, c'est le signe, le grand signe qui nous montre que Jésus va revenir chercher l'Église. L'apostasie, elle est là. Et nous ne devons pas juste accepter l'invitation. Tiens, chaque dimanche, il y a un culte. Il y en a qui ont accepté l'invitation. Vous connaissez la parabole du festin des noces. Vous la connaissez, cette parabole? Elle est où, monsieur le stagiaire? Dans Luc? Alors, on va la lire quand même dans Matthieu 22. Hein? Voilà, tu es renvoyé, Jonathan. Tu es renvoyé. Écoute, tu cherches une autre église, tu cherches un bon pasteur. Et voilà. Matthieu chapitre 22. Cette parabole, c'est Jésus qui parle. C'est encore un de ces fameux 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Il explique que tout le monde est invité. Est-ce que c'est bien que Dieu invite tout le monde? Oui, tout le monde, les riches, les pauvres, les gentils, les méchants, tout le monde est invité. Tout le monde est invité, tout est prêt. Dans le ciel, je pense que tout est prêt. C'est déjà écrit au verset 4, venez aux noces, au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, etc., etc. Verset 10, les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Est-ce que c'est bien que Dieu invite les méchants et les bons? Ben oui, tout le monde entend l'évangile. Et la salle des noces fut pleine. Le roi entra pour voir, je répète, c'est Jésus qui parle. C'est pas Luc, le fameux docteur de D12, là. C'est Jésus. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors qu'est-ce qu'on a à faire là? C'est quelqu'un qui a accepté l'invitation. Il a accepté l'invitation puisqu'il y est. Vous êtes d'accord? Il représente tous les chrétiens qui ont accepté de rentrer dans l'église. Voilà, ils ont accepté l'invitation. C'est bien, moi, j'étais dans une église. Oh, il n'y avait que des idoles. Ici, c'est un peu sobre, mais au moins, ils respectent la parole. Ici, il n'y a pas d'idoles. Alors, c'est sûr que c'est bien. Mais vous savez, les idoles, elles peuvent être ailleurs. Dans le cœur. Des choses qui prennent la place de Dieu. Et qui nous amène à entendre le deuxième don spirituel qu'on a entendu ce matin, qu'il y a quelqu'un qui gaspillait le temps. Voilà, ça c'est à cause des idoles. Vous ne rêvons pas. Donc là, on a affaire à un gars, c'est Jésus qui parle, il a accepté l'invitation, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors est-ce que ça veut dire qu'à l'enlèvement, il y a des gens qui vont être pris parce que Jésus va s'être trompé? Non, c'est une parabole. N'inquiétez pas, l'enlèvement, le Seigneur ne va pas se tromper. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite d'aller en enfer, qui va aller au ciel. Ça ne va pas arriver, ça. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. C'est comme ça que ça se passera. Avec moi, vous pouvez discuter. Vous pouvez dire, oui, mais monsieur Gau, moi, je ne peux pas. Parce que si, monsieur Gau, je ne peux pas. Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous direz au Seigneur? En vérité, on ne pourra rien lui dire. On aura tous la bouche fermée parce qu'on saura très bien quels ont été les choix qu'on a fait, par exemple, suite à cette prédication. Alors le roi dit au serviteur, c'est Jésus qui parle. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est une chose d'accepter l'invitation, ça n'est une autre pas de devenir un chrétien, d'être un élu. Les élus dans la Bible, ce sont les véritables disciples. C'est exactement ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a accepté l'invitation. Bien sûr, moi je veux bien de Jésus et je veux bien marcher avec le Seigneur. Mais ils veulent marcher avec Dieu pour la bénédiction. Ils ne veulent pas marcher avec Dieu pour devenir un disciple et se préoccuper de ce que Dieu veut. Parce qu'un chrétien, c'est quoi un chrétien? C'est un chrétien, on va le voir. Pour conclure, il fait des efforts. Efforcez-vous, c'est la seule proposition que Jésus fait dans cette prophétie terrible. Efforcez-vous. Une fois, j'arrêtais un chrétien dans l'église. Il avait prié, il y a longtemps, ça peut-être 10 ans, il avait prié avec ferveur, tout le monde avait dit amen, moi ça ne m'avait pas plu. Il avait dit, Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Alors j'étais le voir, je dis, écoutez, ça ne marchera pas ça. Ça ne marchera pas, ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous forcera jamais. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Même les anges, puissants en gloire, c'est tout ce que vous voudrez, même les anges, quand le diable, quand Lucifer, l'ange haut de gamme, a choisi de se désolidariser, il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Pourtant, ils ont vu Dieu, etc. Dieu les a laissés. Les anges, eux aussi, sont des créatures qui ont choisi le bien ou le mal. Et nous, que nous le voulions ou non, nous devons choisir. Est-ce que cette affaire de, sainteté, c'est sérieux? Le chemin large et spacieux, ça plaît à tout le monde. Moi, je fais ce que je veux. Monsieur Gros, écoutez, moi, je sais ce que j'ai à faire. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. Eh oui. Il y a un chemin, il est étroit. C'est le chemin de la sainteté. Le chemin du Seigneur, c'est un chemin de lumière et de grâce. C'est un chemin de sainteté. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Mais aujourd'hui, on n'en veut pas. Aujourd'hui, Dieu est trop bon. Dieu est bon. Mais monsieur Gros, Dieu est bon. Dernièrement, j'étais dans une église, j'ai prêché. Tous les chants étaient beaux. Et c'est vrai. Mais tous les chants étaient sur la bonté de Dieu. Dieu est bon en tout temps. Tous les chants étaient beaux. La bonté de Dieu. Et un pécheur qui vient pour la première fois dans l'église, eh bien, le gars, il va dire, ben, si Dieu est bon, mais c'est bien. C'est bien. Oui, Dieu est bon. Infiniment bon. Mais Dieu est juste. Et Dieu est saint. Et des millions de gens, peut-être milliards de personnes par jour sur terre, récitent le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais ils ne réalisent pas que la sanctifier, c'est un comportement pratique. Mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Moi, je n'ai pas envie que quand Jésus va enlever, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Et ça, ce n'est pas du chantage. Mes frères et sœurs, je pense que c'est dû à l'amour de Dieu. Il n'y en a pas pour longtemps que la porte va se fermer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi je veux, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Mais c'est quoi se revêtir de... C'est quoi au fait se revêtir d'un vêtement blanc? C'est quoi? C'est venir super bien saper à l'église? Quoique, j'en fais une parenthèse pour expliquer quand même. Je le disais tout à l'heure, on en parlait hier. Quand on va à un mariage, pour honorer les mariés, oui ou non? Pour honorer les mariés, qu'est-ce qu'elle aurait dit Solange, à votre mariage, il y a 2 ou 3 mois? Si j'étais venu débraillé avec le Marcel, parasé... « Salut, moi, l'habit fait pas le moins, ne t'inquiète, je me suis préparé, je vais te la dire, ta prédication. » Est-ce que j'aurais prêché pareil? Est-ce que j'aurais prêché? Oui, j'aurais prêché pareil. Ce matin, j'aurais pu venir à Marseille, en Bermuda, avec des claquettes. Est-ce que j'aurais pu venir? Oui, imaginez. Est-ce que j'aurais pu? Oui. Mais je pense qu'on a rendez-vous avec le Seigneur. Pour des mariés qu'on aime, qu'on respecte, on va faire attention à la façon dont on s'habille. Alors, pour le Seigneur. Alors, c'est sûr que c'est pas l'habit qui va faire que... qu'on va aller au ciel, c'est la sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et je dois savoir si je vis dans la sainteté. Moi le premier. Pas parce que je prêche sur la sainteté, que je vis dans la sainteté. C'est archi sérieux cette affaire. Oui, Dieu est bon. Mais Dieu est saint et n'entreront dans son royaume que ceux qui marchent dans la sainteté. Je ne parle pas de sanctification. Ceux qui viennent de la grande tribulation, ils doivent faire en partie, ça doit être des vierges folles. Bien sûr, il y a plein de jeunes d'inconvertis. Mais la majorité soit être des vierges folles qui ont dit, bon, maintenant, ça suffit. On a perdu notre temps. On a perdu notre enlèvement. Et bon, maintenant, je n'ai pas mis dans l'enfer. Parce que les gens, ils vont lire. Le Saint-Esprit va parler quand même, heureusement. Mais vous avez envie de vivre la grande tribulation? Il y a quelqu'un ici qui a envie, oh, mais moi, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse lire. Mais je peux vous dire que ça va. Mais je ne pense pas que les gens se rendent compte. Oh, ça va mal, tout va mal sur la terre. Écoutez-moi, lisez l'Apocalypse et vous allez voir que ça va bien. Ça va très bien même. Il y a en tout le cas chez nous. Croyez-moi, ça va bien. Mais le jour où l'Église va être enlevée, ça va changer au niveau du curseur de la colère. Là, nous sommes dans la grâce. Mes frères et sœurs, l'Église, elle s'est préparée. Qu'est-ce que c'est alors la robe blanche? Parce qu'il faut expliquer, pour les nouveaux. Pour vous qui venez peut-être pour la première fois, ben c'est bien que vous entendiez ça. Parce que dans l'église de la fin des temps, on ne prêchera plus la repentance, ça c'est clair. On ne prêchera plus sur la sainteté. Dans l'église de la fin des temps, ça sera du social. Il faudra donner à manger aux pauvres. Alors est-ce qu'il faut donner à manger aux pauvres? Ben oui, mais ça c'est des conséquences. Tout ça, ça doit être des conséquences d'une vie sanctifiée. Le véritable habit de noces. Pourquoi le gars, il a refusé l'habit de noces? Il a accepté l'invitation, il refuse l'habit de noces. Pourquoi? Ça, c'est écrit, on peut y réfléchir. Bon, c'est bien quand même, il accepte l'invitation, bon, c'est bien. Mais il refuse l'habit de noces. Et bien parce qu'il y a des gens, il n'y a pas des habits que vous refuseriez de porter, vous? Est-ce qu'il n'y a pas des habits que vous refuseriez de porter? S'ils ne vous plaisent pas, est-ce que vous les mettrez? C'est qu'il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas de rentrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer sur la porte étroite. Ça ne leur plaît pas la repentance. Alors ils rentrent par la sympathie. Ah, ce pasteur, il est gentil, c'est bon. Il est gentil, ce pasteur. Oui, est-ce qu'il vous prêche la repentance? Parce que Jésus n'a pas dit au pasteur, soyez sympa ou soyez gentil. Jésus, il a dit au pasteur, convertissez-vous. Mais, mes frères et sœurs, Est-ce que vous êtes passé par la repentance? Est-ce que vraiment vous avez accepté Jésus comme sauveur? Est-ce que vous êtes passé par la conversion? C'est pas la même chose, la repentance et la conversion. La repentance, c'est accepter Jésus comme sauveur. La conversion, c'est accepter Jésus comme Seigneur. Il va diriger ma vie. Ce qu'il va me dire, je vais le faire. C'est ça. Et la repentance et la conversion doivent engendrer une nouvelle naissance. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que l'église est en vrac aujourd'hui, que plein d'églises sont en vrac, parce que les gens ne sont pas convertis. Ils vont à l'église, mais ils mentent. Ils ne mentent pas une fois, ils ne demandent pas pardon, ça peut arriver. Mais ils n'en ont rien à serrer. Oh, c'est pas grave, la grâce de Dieu. Tite nous dit qu'elle nous enseigne à vivre selon la piété. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mes frères et sœurs, le vêtement blanc, ça commence par la repentance. Ça se poursuit de suite par la conversion. Ça se poursuit de suite par la nouvelle naissance. Et c'est vérifié par la sanctification. Et si dans ma marche, je peux me salir les pieds, eh bien, nous nous lavons les uns les autres, nous prions ensemble. Oui ou non? Mais il faut faire la différence entre se salir les pieds, parce que la vie fait que nous nous salissons, et il faut faire attention à ça. Il y a des choses qui sont normales, je l'ai dit tout à l'heure, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je fais la différence entre un péché, parce qu'on marche, tiens, on voit qu'il y a quelque chose, j'ai mal réagi, j'ai parlé mal d'un frère, pardon Seigneur. C'est rien ça. Mais vivre volontairement dans le péché, ça fait que vous ne serez pas prêt. Quel que soit le service, bien sûr qu'il faut servir, parce que le fait de ne pas servir est la preuve aussi qu'on n'a plus de communion avec Dieu. Et l'autre texte où Jésus parle justement des pleurs et des grincements de dents, c'est par rapport à ceux qui justement ne font pas valoir le talent. Parce que pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi Dieu nous a sauvés au fait? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Oui, parce qu'il nous aime, d'accord. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, Madame Blanc, ça ne va pas, cette réponse. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pour le servir. Vous allez me dire, oh non, mais moi, j'ai pas le temps. Écoutez-moi bien. Dieu vous a sauvés pour que vous le serviez. En préparant cette prédication hier, je pensais à ce vieux cantique qu'on n'a pas chanté depuis longtemps. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît? C'est le premier que je vous ai donné en arrivant. C'est le 605, je crois, sur les ailes de la foi. Un vieux cantique, on ne le chante plus, peut-être qu'on ne peut plus le chanter. Peut-être qu'on ne peut plus, je le dis honnêtement. Ce cantique qui dit, un beau, beau, beau cantique, que Dieu compte sur nous. Ina? Vous voulez pas qu'on le chante? Dieu peut-il compter sur nous? Alors, oui, ce cantique, je vous encourage à l'apprendre, à le lire. Quand on veut chercher sur Internet un truc, on le trouve sur YouTube. Et je peux vous dire que si vous cherchez sur la liste des cantiques zèles de la foi, vous trouverez ce cantique, Dieu peut-il compter sur nous? Mes frères et sœurs, avant qu'on prenne le pain et le vin, très sérieusement, je dis ça très sérieusement. Écoutez-moi bien. Il faut que vous répondiez chacun, pas à votre voix, c'est dans votre cœur, c'est à Dieu. En tous les cas, Dieu va voir comment vous allez répondre à cette question. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est important pour vous de porter du fruit? Parce que ceux qui ne portent pas de fruit, je vous assure, ça devrait mal se passer. À moins qu'il y ait de nouveau une vraie repentance. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est important de porter du fruit? Parce que Dieu compte sur vous. Il compte sur vous, le Seigneur. Il est dit qu'il cherche. On est compte, Dieu il sait, bien sûr. Mais c'est pour qu'on nous interpelle. Dieu cherche un homme. Quand il dit qu'il cherche un homme, il cherche une église. Il cherche, il dit, et je n'en trouve pas. Je vais envoyer ma fureur. Pas des gens, il faut être honnête. Ce matin, je lisais l'histoire de deux chefs dans les chroniques. Comment ils s'appellent? J'ai pas envie de retenir leur nom. Ces deux chefs, ils vont voir Jérémie. Écoutez bien. C'est dans Jérémie 42, je crois. Ils vont voir Jérémie, deux chefs d'Israël. Écoute, Jérémie, tu vas prier Dieu. C'est exactement ça. Tu vas nous dire tout ce que Dieu va te dire. Et tout ce que Dieu te dira, nous le ferons, quand ce soit du bien ou un mal, tout ce que tu nous demanderas, on le fera. Et je résume. 10 jours après, la réponse fut donnée à Jérémie. Jérémie va leur exposer la réponse. Et vous savez quelle heure était la réponse ? Nous ne t'obéirons en rien et nous continuerons à adorer la reine du ciel. Et quand vous lisez les chapitres avant, vous vous demandez comment ils ont pu faire pour continuer à adorer la reine du ciel alors que Dieu leur dit que ceux qui adorent la reine du ciel, ils vont connaître la colère. Vous lirez dans Jérémie, c'est 42 et 44. Mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais là, moi, mes frères et sœurs, vous savez, quand j'ai préparé cette réunion, je sais qu'il n'y a pas que vous, je sais qu'il y a des milliers, par la grâce de Dieu, des milliers de gens qui écoutent sur Internet. Je le sais, ça me met encore plus la responsabilité. Mais mes frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous qui m'écouterez, qu'est-ce que vous faites du fruit ? Dieu compte sur vous. Il compte sur vous pour que vous priez pour moi. Mais vous n'avez pas vu le nombre de pasteurs qui arrêtent, le nombre de femmes de pasteurs qui sont en dépression. Alors bien sûr, c'est facile de jeter la pierre et dire, mais moi, s'il se tenait devant Dieu, eh bien, il n'en serait pas là. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Allez voir M. Olé. Ça fait 60 ans qu'il sert Dieu. Allez voir M. Olé. Parlez-lui du combat spirituel. Et il vous expliquera si vous ne me croyez pas. Ou M. Bordeneuve, ou les anciens. Allez les voir. Même déjà les stagiaires, ils commencent à comprendre ce qu'est un combat spirituel. Mais est-ce que Dieu compte sur vous ? C'est des cantiques, ils n'ont pas été écrits pour faire danser les chrétiens. Ils ont été écrits pour qu'on puisse se dire, mais est-ce que Dieu compte sur moi ? On comptait sur vous pour la prière. Oh, l'heure de la prière, moi j'ai pas le temps, monsieur Gau. Mais ce soir, j'aurai le temps pour regarder, ou mercredi soir, j'aurai le temps pour regarder France-Roumanie, parce que quand même, c'est bien. Est-ce que c'est bien de regarder de temps en temps quelque chose qui va nous détendre ? Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il faut se détendre. Quelle grâce de pouvoir se détendre. Mais ce n'est pas moi qui vous le dis. Dieu compte sur vous. Pour la prière. Pour l'évangélisation. Pour aller chercher quelqu'un qui n'a pas de voiture. Comme un frère a été chercher ce matin Madame Santa Lucia. C'est bien que quelqu'un vienne vous chercher. Dieu compte sur vous. Mais non, moi je n'ai pas le temps. Mes frères et sœurs. À moi, vous pouvez me dire que je n'ai pas le temps jusqu'à ce qu'on parte. Ça m'est égal. Mais quand vous allez passer devant Dieu, moi, vous savez que j'aurais pu arrêter mon ministère. Vous le savez. On m'a demandé d'arrêter. Les neurologues, les cardiologues m'ont dit, monsieur Gou, il faut arrêter, etc., etc. Mais je savais qu'il me fallait continuer. Et je savais pourquoi j'ai traversé ce truc. Parce qu'un pasteur, il ne faut pas que ça devienne un moulin à paroles et un fabricateur de sermons. Un pasteur, il doit connaître la pensée de Dieu pour la porter à l'église. Et il m'a fallu une bonne castagne, comme on dit à Toulouse, pour arrêter. C'est malheureux. Mais mes frères et sœurs, est-ce que c'est sérieux pour vous de porter du fruit ? Ou est-ce que vous dites, mais c'est pas grave, il y a des musiciens, mais peut-être que Dieu vous appelle justement à louer Dieu par la musique, je sais pas, à l'heure de la prière. Vous devez le demander à Dieu, c'est pas à moi, vous dire, fais ci, fais ça. Chacun d'entre vous, d'entre nous, nous devons dire, mais Seigneur, à quoi tu m'appelles ? Est-ce que vous le faites ? Ou est-ce que vous dites, ah non, on va à Sainte-Agne parce que c'est ci ? Mais non, l'autre jeune chrétienne qui va dire, ah monsieur Go, moi je veux venir ici, parce que si, parce que j'ai dit, mais est-ce que vous avez demandé à Dieu où elle était votre place ? Est-ce que vous savez où elle est votre place ? Il y a des gens, dès qu'il y a un problème, paf, ils s'en vont. Oh, moi, je fous le camp, j'en ai marre. Il y a eu ce truc. Si un pasteur, il devait partir chaque fois qu'il est contrarié par une situation, eh bien, je peux vous dire que ma femme, elle aurait connu quelques déménagements. Si chaque fois qu'un frère ou une sœur nous contrarie, eh bien, puisque c'est ça, je fais mes bagages. Non, mais franchement, mes frères et sœurs, quand on va passer devant Dieu, il va y avoir de sérieuses surprises. Et moi, j'ai pas envie que Dieu me dise des gens sont en enfer à cause de toi. Parce que c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Et c'est exactement ce qui se repassera. Vous avez empêché les gens d'entrer dans le royaume. Et si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume. N'essayez pas de dire, oh mais moi vous savez monsieur Gros, quand je vais mourir, bien sûr c'est facile, je vais donner mes 150 000 euros à telle association. Mais quand on est mort, je vais dire, bon, moi ça ne me peinerait pas de donner 52 000 euros ou 10 000 euros ou 500 francs. Quand on est mort, ça ne doit pas vous coûter beaucoup quand même. Oui ou non ? Oh, quand il est mort, il a donné ses 3 maisons à l'œuvre de ceci. Ben ouais, c'est sûr, ils n'allaient pas le suivre, ces baraques. Non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. C'est pas quand on est mort qu'il faut donner un truc. C'est quand on est vivant. Mes frères et sœurs, j'ai voulu volontairement qu'on prenne le pain et le vin après. Pour que ce soit le moyen de dire, il faut que je m'éprouve. Il faut que je m'éprouve. Où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Oui, Dieu compte sur toi, mon frère. De la même manière qu'il compte sur moi. Et moi, je veux être debout quand Jésus va revenir. Alors, mes frères et sœurs, on va se recueillir. Il faut le faire consciencieusement, sérieusement. C'est pas l'Église, c'est pas une association de gens sympas. L'Église est un endroit où on veille les uns sur les autres, sur nos âmes. Frères et sœurs, efforcez-vous. Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas pour vous. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Faites tous vos efforts. On pourrait prendre tous les textes du Nouveau Testament. Ça n'annule pas la grâce. La grâce, en tous les cas, ça n'annule pas le fait qu'il faut faire des efforts. La porte va bientôt se fermer. Vous le croyez, mes frères et sœurs? La porte, le maître de la maison va bientôt fermer la porte. Et moi, je souffre de voir tant de chrétiens qui ne pensent à Dieu que le dimanche matin, qui n'ont pas revêtu cette robe blanche. Entrez ce matin, entrez. Entrez dans le royaume. Entrez, restez dedans. Ne sortez pas parce qu'il y a eu une contrariété. Il y a plein de gens qui sont rentrés, qui sont sortis. Il y a plein. On appelle ça les rétrogrades ou les fils prodigues. Mais c'est la vérité. Ah, mais je suis pas rétrograde, monsieur. Je suis là tous les dimanches. Alors je tiens à vous dire que c'est pas parce qu'on est là tous les dimanches qu'on est fidèle. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, efforce-toi. Vis-tu dans la grâce? Es-tu dedans? Es-tu dedans? Comme les fils de Noé, ils étaient dans l'arche. Ça riait dehors les premiers jours, surtout les premiers jours, parce qu'il ne pleuvait pas. Les 7 premiers jours, qu'est-ce qu'on a dû rire? Et c'est ce que le monde fait, il rit, il ricane de l'Église. Moi, ça m'est égal complètement. Mais la porte va se fermer. Et ce matin, c'est un jour de grâce. Efforcez-vous, ce n'est pas un reproche. Efforcez-vous, c'est une grâce de Dieu. La prédication, vous pouvez l'analyser comme vous le voulez, c'est une invitation à vivre dans la grâce, à vivre près de Jésus, à vivre dans la sainteté, à marcher dans la sainteté. Il vaut mieux la robe de fin lin éclatant, croyez-moi, au début, tout au début. Alors on va se lever, comme on s'est levé tout à l'heure pour chanter ce beau cantique, devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Et oui, il va s'ouvrir ce livre, comment il est? Est-ce que c'est un bouquin comme ce qu'on a là sur nos genoux? On n'en sait rien, mais il y a dans le ciel un livre. Votre nom est-il inscrit? Est-ce que vous pouvez dire, oui, mon nom, il est dans le livre? Voilà ce que c'est l'Église. Ce sont des gens qui sont sûrs que leur nom est écrit dans le livre de vie. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont ceci ou cela, parce qu'ils marchent dans la sainteté, dans la repentance. Alors recueillons-nous et répondez-lui. Je pense avoir fait ma part. Faites la vôtre. Ça peut prendre 1 seconde, 3 secondes. Dire, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Il va vous pardonner. Je vous le dis, c'est la dispensation de la grâce. Ça peut prendre 5 minutes, ce soir ça peut prendre 1 heure, parce qu'il faudra téléphoner à Jacques, à Piol, à Claudine, à Albert, j'en sais rien, pardonne-moi, je t'ai critiqué. Je ne sais pas, ça peut prendre 3 secondes ou 3 heures, c'est pas grave. Faites-le. Faites-le, efforcez-vous d'entrer. Tu nous as laissé ta parole. Et même s'il n'est écrit, pour ainsi dire, qu'une fois, de faire attention quand on lit, merci de nous l'avoir dit. C'est certainement des versets comme celui-ci qui sont sortis de ta bouche qui nous permettent de vivre ce qu'on vient de vivre ce matin. de faire attention. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la croix. Toi le Seigneur. Toi devant qui nous allons bientôt passer. Mon Dieu, que ce moment soit béni. Nous voudrions tous dans ce lieu être revêtus de vêtements blancs, éclatants, purs. Pour ces noms, ce que tu as préparé. Mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci du fond du cœur. Amen.